Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40, soyez les bienvenus sur France Inter. C'est une belle journée qui continue, qui démarre, qui comme vous voulez.
Direct, allez-y.
Aujourd'hui, dans l'Instant M, on parle de reportage. Raconter une histoire sur le terrain, chercher à l'incarner, donner vie à la singularité. Mais le reportage a vocation à en dire plus long, à s'inscrire dans une narration plus globale, plus collective. D'où l'enjeu. Filmer une personne pour brosser tout un peuple, une région pour montrer tout un pays. Un reportage, c'est une série de choix. D'autant plus périlleux lorsqu'on cherche à décrire un territoire composé de 11 fuseaux horaires. D'autant plus scruté lorsqu'on s'attaque à une très grande figure de la politique mondiale, Vladimir Poutine, que pour simplifier, on dirait vu comme un héros à Moscou, mais comme un tyran à Paris.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et bonjour Martin Veil.
Bonjour Sonia.
Soyez le bienvenu. Pas un portrait de vous, pas un papier qui ne commence par votre bilan carbone, par des blagues sur le Tintin Reporter, sur le Globetrotter de l'émission Quotidien. Vous savez, c'est le talk show de Yann Barthès sur TMC qui vous a fait parcourir à peu près toute la planète. Il s'est un petit peu calmé le Globetrotter cette année. Il essaye de passer un peu plus de temps partout où il passe et de proposer des formats un peu plus longs. On va vous en parler. Ça s'appelle L'Empire Poutine, soit respecté. Spécial diffusé ce soir sur TMC après quotidien, mais présenté par vous-même. Romain Nigita est à nos côtés pour les mardis en série. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Où il sera question d'une série Netflix, excellent portrait de l'Amérique par le prisme des médias et du racisme. Un mot d'actu d'abord. Alors, le magazine Têtu, placé en liquidation judiciaire il y a 2 mois, reparaîtra à un rythme trimestriel et mise sur le multimédia. Une vingtaine d'actionnaires ont levé 700 000 euros pour relancer le titre iconique de la communauté gay. Parmi les repreneurs, Marie Eklund, vous vous souvenez peut-être de son nom, elle avait été nommée un temps à la tête du Conseil National du Numérique, un directeur général de L'Oréal, là je pense que vous ne connaissez pas son nom, mais il y a aussi parmi la vingtaine de gens qui ont mis au pot, le journaliste Marc-Olivier Fogiel. Michelle et Barack Obama créent leur maison de production et signent un contrat avec Netflix. Ce n'est pas un contrat exclusif, mais c'est un contrat quand même pour qui ils vont produire des docs et des séries toujours sur Netflix. Je vous le rappelle, Barack Obama, on s'en souvient, a été le premier invité de David Letterman, ancienne grande gloire de la télévision, pour son talk show désormais exclusivement diffusé sur la plateforme en ligne. Bref, c'est ce qu'on se disait, il y a une émission entière à faire sur Netflix, sur l'idéologie Netflix, et c'est peut-être même en train de devenir un des médias les plus engagés, non, du territoire américain. Martin Veil, qui connaît bien les États-Unis,
ouais,
dirait quoi sur Netflix ?
Ben, je dirais qu'ils sont très ambitieux, qu'ils font des beaux contenus, et je pense que oui, il y a une... On sent qu'il y a un move, est-ce que
c'est ça
continuera
y a une ligne
ou pas, je sais pas,
hein.
Mais en tout cas tout le monde les regarde, c'est une certitude.
Tout le monde les regarde et il y a une petite ligne politique qui commence à se dessiner. Alors Netflix, on continue avec cette série Dear White People, la saison 2, qui vient de démarrer ce mois-ci, la vie de jeunes afro-américains sur un campus universitaire romain.
Et c'est une série drôle et pertinente dans laquelle l'une des héroïnes, Sam, est une étudiante métisse qui anime sur la radio de la fac l'émission Chers Amis Blancs, c'est la chronique du racisme.
Chers amis blancs, voici un petit conseil. Quand vous demandez à quelqu'un qui a une apparence différente, tu es quoi ? En général, la réponse est une personne qui va te mettre son poing dans la gueule.
Alors que l'émission de...
Alors le campus est un concentré de toute la société américaine avec son passé et ses préjugés. La première saison s'intéressait aux violences policières et au mouvement Black Lives Matter. Mais la saison 2 pousse, elle, l'analyse de l'ère Trump et de ses dérives médiatiques.
Alors on commence par Twitter, évidemment, outil de communication préféré du président américain.
Et dans cette saison 2, un troll va sévir sur le réseau à grands coups de clash au nom de la défense des Blancs. Un argumentaire polémique qui va même donner naissance à une autre émission de radio concurrente, Chers Amis de Droite.
Pourquoi les gauchistes sont obsédés par la victimisation des femmes ?
Ce qui pourrait les rendre encore plus dingues, c'est un immigré d'origine amérindienne, transgenre et bisexuel. Pas vrai ?
Quoi ? Et en fauteuil roulant, avec le sida.
Faudrait qu'on en trouve un, sérieux.
Bonne idée.
C'est clair. Alors on se croirait presque
c'est
sur Fox News.
Ouais.
Assez effrayant, puisqu'au nom de la liberté d'expression, les pires horreurs sont ainsi dites à l'antenne, et c'est à qui se positionnera en victime la plus opprimée. Prenez par exemple cet étudiant blanc, à qui l'on reproche de vouloir réaliser un documentaire sur le racisme, alors qu'il est blanc, justement.
Justement, c'est ça. Alors, portrait de jeunes encore très très influencés sur la télé, hein, c'est même toute la conclusion de la série, on vous raconte pas tout. Et Dear White People s'en prend pas seulement au format de l'information et aux messages véhiculés par la télé, mais même aux séries télé elles-mêmes ont dit une mise en abîme, évidemment.
Une mise en abîme avec beaucoup d'humour via des pastiches de séries que l'on reconnaîtra aisément. Ouais. Des séries comme Scandal et Empire, soit deux séries américaines actuelles avec des vedettes noires et deux très grands succès malgré leur ficelle parfois grossière. C'est justement ce que regrette dans la série un étudiant kényan.
Au Kenya, ces émissions sont notre seul élément de référence sur les Afro-Américains. Quand je suis arrivé ici, j'étais absolument terrifié.
Terrifié des Afro-Américains ou qu'on te confonde avec eux ?
Ben les deux. Votre pays me retourne le cerveau.
Voilà, alors que dans les vraies séries, hein, puisque là on était dans la série, voilà, il est encore compliqué de parler de certains sujets sensibles aux États-Unis, Romain.
Et oui, c'est le cas de l'excellente comédie Blackish, qui en a fait la meilleure expérience il y a à peine 2 mois, cette série que l'on peut voir en France sur Comedy Plus, s'est vue refuser un épisode par son diffuseur américain, la grande chaîne hertzienne ABC, un épisode déjà tourné qui revenait sur le cas des footballeurs noirs qui s'agenouillaient durant l'hymne américain en signe de protestation contre les déclarations de Donald Trump. Résultat, le créateur de Blackish serait en discussion pour partir chez Netflix.
Ah, mais encore un transfert chez Netflix,
mais
d'accord.
Mais ABC s'en fiche totalement puisqu'elle cartonne actuellement avec le retour de la sitcom Roseanne qui cartonne avec les idées pro-Trump.
C'est ça, voilà. Alors, je récapitule hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Sur ABC, il y a Roseanne avec... voilà.
Avec tout son discours.
Avec tout son discours blanc pro-Trump. Sur Netflix, peut-être bientôt, il y aura le créateur de Blackish. Et en attendant, sur Netflix, il y a Dear White People, cette série dont on vient vous parler, ce campus américain, on va dire, vous vous dites drôle et pertinent, moi je dis quand même assez acide. Hein.
Et effrayant aussi par moments.
Voilà. C'est sur Netflix en ce moment et c'est sans tabou.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Eh ben, puisqu'on est aux États-Unis, on y reste. Martin Veil, invité de l'Instant M. Nous vous avions reçu pour une première soirée spéciale l'année dernière. Ça s'appelait Trump saison 1. Ça avait très bien marché. Ça laissait entendre qu'il y aurait une saison 2.
Ouais.
Elle est où, la saison 2?
Bah, on a fait un deuxième prime sur Donald Trump. C'était le 8 novembre, du coup, un an après son élection. Donc, c'était une sorte de saison 2. Et on avait appelé ça Trump saison 1, surtout parce qu'il y avait vraiment ce côté série télé quand on regardait sa présidence. Donc, voilà, on a déjà fait deux émissions. Effectivement, il y aurait suffisamment de matière pour en faire un troisième.
C'est ça. Ouais. Mais vous allez arrêter de feuilletonner. C'est-à-dire que c'est plus tellement un personnage de série. C'est vraiment la question, parce que je me souviens très bien de la discussion de l'année dernière dans cette émission et de ce prime où vous aviez joué avec les codes de l'Amérique à fond et avec tout le burlesque et le grotesque du personnage, les pom-pom girls, il y avait les paillettes, il y avait les pop-corn, etc. C'est toute la question un an après, c'est-à-dire de ce regard journalistique européen et français sur Donald Trump.
Bah, je pense que ça change parce qu'il y avait vraiment ce côté choc, personne s'attendait à la voir, c'est un personnage absolument incroyable. La deuxième émission qu'on avait faite était déjà peut-être un petit peu plus sérieuse, ces aspects-là, parce que ça y est, il était au pouvoir. Je pense qu'on est moins choqué évidemment, mais qu'il y a toujours énormément
moins
de choses
aussi,
à raconter
moins
sur lui.
Moins fasciné, moins amusé.
Je pense qu'il fait beaucoup moins rire
passer Gaza, passer le nucléaire iranien. Vladimir Poutine est à sa manière aussi, Martin Veil, un fantastique showman. Il soulève les stades, il déchaîne les foules, il se met en scène à la perfection quand il faut. Et pourtant, vous ne l'abordez pas du tout de la même manière. Vous jouez en fait relativement peu avec ce qu'il y a de caricature dans sa personne, et même vous l'assumez totalement, puisqu'on va parler de votre point de vue journalistique, au milieu de l'émission, en disant « Poutine fait peur ».
Ouais, bien sûr.
Ce qui est relativement rare dans la bouche d'un journaliste.
Oui, mais c'est vrai. Enfin, je pense que Poutine nous fait peur. Poutine fait peur à l'Occident, Poutine inquiète, c'est une réalité. Et ce qu'on a... En fait, Poutine nous intéresse, enfin nous a intéressé nous, justement pour ça. Il est à la tête d'un pays qui compte énormément aujourd'hui. La Russie de Poutine, les idées, les valeurs qui sont derrière, c'est pas les nôtres et on a énormément de mal à se comprendre. Du coup, ça nous fait peur. Est-ce qu'on doit avoir peur de lui ou pas? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à se comprendre? Comment est-ce qu'on explique, par exemple, que les Russes l'aiment autant et qu'ils fassent aussi peur à l'Occident? Toutes ces questions-là, ça nous a vraiment intéressé et on s'est dit, il faut qu'on essaye de comprendre. Il faut qu'on essaye de parler aux Russes, il faut qu'on essaye de savoir pourquoi. Est-ce que pour eux, Vladimir Poutine, c'est une sorte de héros, comme vous avez dit, alors que pour nous, c'est quelqu'un qui nous inquiète?
Voilà. Alors, je précise qu'il y a en deuxième, dans l'ordre chronologique, par ordre d'apparition, on va dire, un long sujet sur ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, mais moi que j'ai pas pu le voir puisqu'il était encore sur le banc de montage.
C'est vrai.
Voilà, et qu'il est signé Guillaume Audat, donc ça sera à découvrir ce soir. Je vous propose
de commencer.
Et c'est vachement bien, sûrement, je vous crois. Je vous propose de commencer par la Crimée, annexée, on s'en souvient, par un référendum à la Russie. Là où bat le pouls de l'âme russe, chez les Cosaques, héritiers d'une tradition militaire interdite par le régime communiste, mais à qui Poutine a rendu toute sa grandeur, dites-vous. École publique, gratuite, dans laquelle vous êtes allé tourner. Des enfants en uniforme, biberonnés à l'orthodoxie, au patriotisme, à l'apprentissage militaire. Alors, l'apprentissage militaire, c'est pour les petits garçons. Les petites filles, elles apprennent la broderie.
Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous apprenez?
De la broderie.
Ça va vous servir à quoi, ça?
Les femmes doivent non seulement combattre et prendre les armes quand les hommes ne sont pas là, mais elles doivent aussi savoir décorer la maison et le foyer.
Selon vous, c'est ça le rôle de la femme? Elle doit être la maîtresse du foyer?
Elle doit faire en sorte que la maison soit jolie pour que le Cosaque, quand il rentre chez lui, s'y sente bien. Et elles doivent aussi veiller à ce que leur futur mari ait une belle prestance.
Alors évidemment, il est édifiant. Absolument édifiant, ce reportage. Il dit beaucoup de choses. Et toute la question, c'est est-ce qu'il dit en même temps la complexité, les contradictions de cette région, c'est-à-dire la Crimée? Est-ce qu'on ne risque pas d'être dans quelque chose qui est en même temps par trop caricatural?
Caricatural, oui et non. Là, c'est vrai qu'on est en Crimée. Ce qui est intéressant surtout, c'est les Cosaques. En Crimée, il y a vraiment ce sentiment patriotique exacerbé qui est très, 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 très fort. Ce qu'on rencontre là-bas nous disent de toutes les manières, on s'est toujours senti russe. Donc, encore une fois, nous, en Occident, on voit ce qui s'est passé en Crimée avec notre œil. Là-bas, c'est pas du tout vécu de la même manière. Après, sur l'école en elle-même, non, malheureusement ou pas d'ailleurs, c'est pas caricatural. C'est vraiment la façon dont ils sont éduqués. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que si c'était une école en Russie, dans un pays de... On se dirait, bon, voilà, on est allé chercher la petite bête. Là, pas du tout.
École publique, financée par l'État.
Exactement, publique, financée par l'État, gratuite. C'est Poutine, vraiment, qui a rendu sa grandeur aux Cosaques. Voilà, c'est validé par le Kremlin. Il y a des photos de Poutine dans les salles de classe. C'est super intéressant de voir ça.
Alors, sujet, par ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, vous vous emparez, et vous l'avez fait plusieurs fois dans le quotidien depuis le début de l'histoire de quotidien, et même l'émission s'appelait Le Petit Journal précédemment, des questions de l'homophobie à plusieurs endroits dans le monde. On s'en souvient, ça a produit des séquences très, très fort dans cette émission. Vous en exhumez une, celle de Kirill, passé à tabac dans une manif. Vous l'aviez filmé en 2013, je crois. Vous vous baladez cette année en Russie. Vous entrez dans une boulangerie interdite, je cite, aux pédérastes. C'est écrit sur un beau panneau en bois gravé à l'ancienne dans la vitrine.
Oui, nous avons des panneaux dans toutes les boulangeries de la chaîne qui disent soit interdit aux sodomites, soit interdit aux pédérastes. Comme vous le savez, dans nos boulangeries, nous ne servons ni pédérastes, ni sodomites. Si par exemple une personne entre et dit « je suis gay », c'est une provocation parce que vous savez que l'entrée vous est interdite. Vous entrez quand même, donc vous me provoquez, donc je vous vire.
Voilà, c'est l'un des témoignages. Hein. Vous rencontrez aussi Victor, 19 ans, jeune transsexuel qui s'est fait égorger, qui a survécu à un égorgement. Vous interviewez le député qui a fait passer la loi interdisant le prosélytisme homosexuel. En règle générale, on commence à bien connaître vos reportages, etc. Martin Veil, vous avez toujours cette même posture, celle d'aller voir des gens qui peuvent être parfois vraiment dans l'outrance, vraiment dans la caricature, vraiment dans l'excès, vraiment dans les radicalités les plus diverses, et de les regarder toujours avec un sourire extrêmement bienveillant, de les écouter et de jouer toujours l'étonnement. Non, mais quand même, c'est totalement insensé, vous ne pouvez pas dire ça.
Oui, mais parce que je pense que c'est le meilleur moyen de discuter avec ces gens-là. Ne pas leur donner la parole, c'est faire que la moitié du sujet. Ne pas discuter avec ceux qui, justement, peuvent dire des choses qui, à nous en tout cas, semblent être des horreurs. Quand on est en face de... On parlait de Vitaly Milonov, donc c'est le député derrière cette loi qui a été décoré par Vladimir Poutine pour l'ensemble de son œuvre législative. Il dit des choses absolument insensées. On lui pose la question du mariage homosexuel. En France, il nous répond, on aurait mieux fait de laisser, alors je crois que c'est les chèvres et les aspirateurs, ou les chiens et les voitures.
Se marier ensemble,
Je pense qu'aller jusque-là dans la discussion avec lui, en tout cas essayer d'y aller, parce qu'évidemment on ne sera jamais d'accord, c'est peut-être montrer justement les faiblesses de son argumentation. Et je pense que c'est intéressant. Après, il faut discuter avec ces gens-là, je pense vraiment. Quitte à se rendre compte, là par exemple, après cette phrase-là, on s'est dit, on va arrêter, parce qu'effectivement, il n'y a plus tellement de dialogue possible.
Ça pose aussi la question de votre regard. Est-ce que votre regard, il a évolué au fur et à mesure de ces années de reportage, très très regardé, très très suivi, très regardé aussi par une population très jeune, qui était peut-être moins biberonnée à l'info que d'autres? Est-ce que vous êtes de moins en moins Tintin reporter? Est-ce que vous êtes de plus en plus engagé? Est-ce que vous l'assumez?
Bah, Je dirais qu'il y a les deux choses. Ça prend vachement l'humilité, c'est-à-dire qu'on a plein de certitudes quand on est un jeune journaliste et qu'on commence. Et en se baladant dans plein de pays, on se rend compte qu'il faut surtout pas céder un peu à l'ethnocentrisme. Et en même temps, c'est vrai que sur certaines causes ou sur certains, certains grands sujets, on se forge une opinion. Moi, je sais pas si c'est hyper engagé de dire ça, mais je trouve ça hallucinant que des personnes, parce qu'elles ont une certaine orientation sexuelle, se retrouvent aujourd'hui au banc de la société où. Pour moi, c'est inacceptable.
Mais vous sentez que votre manière de faire du reportage a évolué ou pas forcément ?
C'est possible. En tout cas, je me pose, peut-être moins de questions là-dessus. Ouais. Ça, pour moi, c'est une évidence. Après, encore une fois, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est pas tellement de dire ce que moi, je pense. C'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les autres ne pensent pas pareil. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce reportage, c'est par exemple les clients qu'on croise dans cette boulangerie et on voit bien qu'on n'a pas le même schéma de pensée, si vous voulez. Il y a une sorte de matrice un petit peu où 1 plus 1 égale 3 chez eux. À partir de ça, tout est logique. Sauf que vu que nous, on n'a pas du tout été éduqués comme ça et c'est pas nos valeurs, et c'est encore plus dur de se comprendre. Et encore plus intéressant, du coup, d'essayer de se comprendre.
Alors, patriotisme, éducation rétrograde, homophobie virulente, hooliganisme, racisme dans les stades, les playmates de Poutine, je résume, des jolis pépés déshabillés utilisés à des fins de propagande. Il y en a sur le web notamment, ça en dit long aussi, comme dit l'une de vos chroniqueuses sur l'image de la femme en Russie. Si tout ça existe évidemment en Russie, est-ce que ça fait un portrait de la Russie d'aujourd'hui ou est-ce que ça enfonce des clichés, est-ce que ça enfonce des portes ouvertes ?
Je pense pas. Je pense pas que ça enfonce des portes ouvertes. Je pense que c'est un portrait évidemment partiel de la Russie. Ouais. On n'a pas la prétention dans une émission d'une heure et demie de vous parler de toute la Russie. Mais il n'y a pas que ça dans l'émission. On discute aussi avec le numéro 2 de l'ambassade de Russie en France. Une discussion que moi je trouve super intéressante sur les raisons justement pour lesquelles on se comprend pas. Il faut bien se rendre compte que les Russes ont l'impression que l'Occident, vous me pardonnerez l'expression, leur a un peu craché à la gueule pendant des années. Ça permet vachement de comprendre en fait ce sentiment un peu de vengeance chez Poutine. Il y a un portrait dans la tête de Vladimir Poutine aussi. Il y a un gros sujet que moi je trouve super.
Dans cette interview justement avec l'ambassadeur, il y a des passages que vous résumez parce qu'elle est sans doute un peu longue,
sûr,
en disant on s'engueule sur, donc c'est tout l'intérêt justement de la posture qui est évidemment pas du tout celle d'un journaliste de JT par exemple, ni d'un journaliste de magazine d'investigation classique ou de magazine classique, on va dire, de prime time sur une télévision publique. C'est justement ça qui est intéressant, c'est le biais par lequel vous rentrez. On s'engueule sur, et ensuite on essaie de se comprendre.
Oui, exactement. Mais je pense que c'est d'ailleurs un bon résumé de l'émission. Évidemment, on part avec des idées. Vous savez, l'émission pour laquelle je travaille, on défend certaines valeurs qui, moi, me posent absolument aucun problème.
Ils m'ont créé que ça.
non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces valeurs-là, elles font partie intégrante de moi. Ouais. Si moi, je pars là-bas, si on essaie de comprendre un petit peu la Russie, de sonder un petit peu la Russie, évidemment, on va le faire un petit peu avec nos codes, avec nos valeurs à nous. Donc, quand je dis qu'on s'engueule... C'est pas méchant, c'est une forme de réalité. Ce qui est intéressant, c'est la discussion derrière. C'est qu'une fois qu'on a passé sur tous ces sujets, donc on évoque la Syrie, on évoque l'Iran, on évoque tout ça, où clairement on sera pas d'accord, on se demande justement, mais pourquoi on n'est pas d'accord? Et là, l'interview, moi je la trouve super.
Et alors rendez-vous ce soir sur TMC, juste après Quotidien. C'était Martin Veil qui vous présentera l'Empire Poutine. Merci Martin Veil.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Sonia.
Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, est-ce qu'on va s'insulter en vrai dans Grand Bien vous fasse?
Peut-être, parce que ce matin on s'intéresse à tous ces adorables personnes qu'on croise tous les jours et qui deviennent d'affreux personnages au volant, qui deviennent totalement fous, grossiers, insultants. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
Avec un glossaire des insultes.
Exactement.
Avec tout ce qu'on a le droit de dire au volant et pas au micro, par exemple.
C'est quoi votre insulte préférée, tiens-vous?
Allez, ça, c'est l'heure de la pub. Salut Ali, à tout à l'heure.